Ce matin, mission ponton. Je répète, mission ponton.
Émile essaie tant bien que mal de raccrocher l'échelle de corde contre le mur. Il se sent d'excellente humeur ce matin. Ça fait une éternité qu'il n'a pas aussi bien dormi. Il a été réveillé par un rayon de lumière qui avait réussi à percer le toit du camping-car et par le cri des mouettes. Johan était déjà en bas. Il l'entendait remuer dans son placard. Il s'est demandé si elle cachait son téléphone. Et puis, quand il est descendu, la table était installée dehors, comme au bon vieux temps, et deux tasses y étaient posées, ainsi que le beurre, la confiture. C'est reparti. Une joie toute enfantine l'a envahi. La lourdeur de ces dernières semaines était bien loin. L'aventure reprenait.
« Calme-toi !» fait semblant de le gronder Johan. « Qu'est-ce qui t'arrive ?»
Il voit bien qu'elle est amusée, que sa bonne humeur ne fait qu'amplifier celle de Johan.
« Je crois que c'est l'air marin. »
Elle secoue la tête.
« Bon, tu viens ou pas ?»
Elle l'attend pour prendre son petit déjeuner. Elle s'est installée sur l'une des chaises pliantes et a remonté légèrement sa longue robe noire pour que ses mollets puissent profiter du soleil. Pock s'est allongé sous la table. Il semble faire un somme.
« Qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la route ?»
soupire-t-il en se laissant tomber sur la chaise.
« C'est vrai. »
C'est une belle journée qui s'annonce. La température devrait atteindre les 25 degrés. Les mouettes tournoient là-haut dans le ciel. Émile plisse les yeux. On aperçoit la ville de Périac de Mer au loin. Les toits rosés et saumons des maisons. Les lagons d'eau calme. Les hautes herbes qui ondulent sous le vent. Un ou des flamants roses pêchent négligemment ça et là. Et il y a ce ponton qui semble s'étendre jusqu'à l'horizon.
« On y va ?»
demande Émile en se levant.
« Quoi ?»
Il n'a pas touché à son petit déjeuner. Il a juste avalé son thé noir. Pourtant, il a l'air déterminé à partir en promenade.
« Bon, ok. »
Johan repose le trognon de la pomme qu'elle vient d'avaler.
« On enferme Pock là-dedans et on y va. »
Il a conscience de galoper loin devant Johan. Il ne peut s'en empêcher. L'air de la mer le fait retomber en enfance. Il a envie de fouler le ponton, de courir vers les flamants roses, de frôler du bout de ses doigts les hautes herbes. Il ralentit cependant en arrivant à hauteur d'un pêcheur. Il ne veut pas faire fuir tous les poissons. Comme Johan est loin derrière, elle marche le nez en l'air et semble humer chaque particule de sel présente dans l'air, il s'arrête quelques secondes à côté du pêcheur et scrute l'eau.
Qu'est-ce que vous pêchez ici ?
Ne peut-il s'empêcher de demander à l'homme dont le visage est dissimulé par une casquette vert kaki. Il est surpris lorsque le pêcheur lève la tête vers lui. Il pensait se trouver face à un monsieur d'une cinquantaine d'années, mais il s'agit d'un jeune homme de son âge, au visage encore marqué par l'acné. Le visage du garçon se fend d'un sourire.
« Vous n'êtes pas du coin pour poser cette question ?»
Émile hausse les épaules.
« Non, pas vraiment. » On pêche pas mal de choses ici dans les étangs. Des loups, des dorades, des soles, des muges. Mais la star locale ici, c'est l'anguille.
Il a une expression de surprise mêlée de dégoût. Il n'a jamais aimé les anguilles. Rien qu'à leur évocation, il sent ses poils se hérisser. Le garçon s'esclaffe.
Faites pas cette tête, c'est délicieux en civet. Un civet d'anguille.
Son air rebuté fait rire le jeune homme.
Ouais! Ou en bourride. J'ai jamais entendu ce mot.
C'est le moment que choisit Johan pour arriver, avec son habituel air ailleurs et sa démarche lente et tranquille.
Bonjour,
lui dit le jeune homme tandis qu'elle s'arrête à côté d'Émile.
Bonjour.
Il pêche les anguilles, annonce Émile en guettant la réaction de Johan.
Ah.
Cela ne semble lui faire ni chaud ni froid. Elle a un air vaguement intéressé, sans plus.
« Il y en a dans votre seau ?»
interroge Émile avec une certaine crainte en désignant le baquet posé à côté du garçon.
« Non, j'en ai pas eu ce matin. »
Il pose sa canne à pêche sur le trépied afin de se lever avec des mouvements raides. Il doit être assis ici, immobile, depuis plusieurs heures.
« Mon père tient un restaurant sur Périac. Il cuisine les anguilles à merveille. Vous devriez y faire un tour ?»
Il sourit en voyant l'air hésitant d'Émile.
« Et il ne cuisine pas que de l'anguille. On y trouve les meilleures dorades de la région. Le nom du restaurant, c'est Jour de pêche. Il est situé dans le quartier médiéval.
Émile et Johan échangent un regard et hochent la tête.
Ouais, pourquoi pas.
Vous êtes dans le coin pour quelque temps ? Interroge le garçon avec un intérêt poli.
On est en camping-car, répond Émile. On sillonne la région, au gré de nos envies.
Le visage du garçon s'illumine avec envie.
Ah, c'est chouette ! On est arrivé hier soir sur Périac. Avant ça, on était à Eous. J'adore Eous ! J'y suis allé plusieurs fois. Vous comptez rester ici longtemps ?
Deux haussements d'épaule lui répondent.
On ne sait pas. On ne sait jamais vraiment. On reste jusqu'à ce qu'on décide qu'on veut aller voir ailleurs.
Le visage du garçon reflète maintenant l'émerveillement. Il paraît beaucoup plus jeune qu'Émile ainsi.
J'adore cette façon de voyager. Un jour, je ferai la même chose. Je partirai en camping-car avec mon chien.
Il semble s'apercevoir qu'il s'enflamme et ajoute.
En tout cas, si vous voulez dîner chez mon père ce soir, je pourrai vous y retrouver. J'ai quelques jolis endroits de la région à vous conseiller.
L'enthousiasme du garçon est communicatif. Émile voit Johan hocher la tête avec intérêt.
Périac est resté un authentique village de pêcheurs. On est, je dirais, à peine 700 habitants à l'année. Les plages de sable fin sont restées vierges de tout aménagement. On a échappé au tourisme de masse.
Johan lui désigne le ponton.
On voulait aller voir ce qu'il y a au bout, indique-t-elle.
Le garçon part dans un grand éclat de rire.
Eh ben, vous n'êtes pas près d'arriver au bout. La mairie a fait construire ce ponton pour faire tout le tour de l'étendue d'Oule. La boucle prend une heure de marche.
On peut faire tout le tour sur le ponton ?
Ouais. Et si vous aimez les flamants roses, vous allez être servi.
À ce moment-là, la canne à pêche posée sur le trépied commence à s'agiter.
Oh, je crois que ça mord.
Le jeune homme s'agenouille et s'affaire, activant le moulinet de sa canne à pêche.
Merde ! L'hameçon s'est cassé, je crois.
Il se débat quelques secondes avec sa canne à pêche et peste contre le fil qui semble s'être rompu lui aussi.
On va peut-être te laisser, suggère Émile. On voudrait pas te déconcentrer.
Le garçon acquiesce, tout affairé qu'il est, à réparer son matériel.
Ouais, on se voit ce soir à Jour de pêche ? Ouais, ça marche.
Alors qu'il s'éloigne doucement, le garçon lance.
Au fait, vous vous appelez comment ?
Le garçon s'appelle Sébastien et il a 25 ans, un an de moins qu'Émile. Il le leur a dit avant de les laisser grimper sur le ponton. Cette rencontre a encore amélioré l'humeur d'Émile, déjà excellente.
Je suis vraiment content qu'on soit reparti.
Il voit Johan acquiescer d'un signe de la tête. Il marche en imaginant les mots qu'il pourra écrire dans son carnet ce soir, à la lueur des bougies que Johan allumera. Il sait qu'il parlera de l'odeur salée des étangs, bien plus forte que l'odeur de la mer. Du soleil d'octobre, bien plus doux et agréable que celui de l'été. Des cercles formés par les mouettes dans le ciel, de leurs cris, des traînées blanches qu'elles laissent devant ses yeux. Du bruit de ses pas sur le ponton de bois. De l'eau presque immobile et de l'odeur de la vase. Des poissons qu'il aperçoit filer entre deux bosquets de hautes herbes. Des flamants roses au loin, en groupe. De la course du soleil dans le ciel, tandis qu'il marche sans dire un mot. De cette dame, d'une soixantaine d'années, qui immortalise les rayons du soleil dans l'eau au bord de l'étang. Du vieux bateau jaune abandonné au bord d'un étang mangé par la rouille. Émile essaie de noter chacun de ces détails, en se disant que c'est probablement ainsi que Johan voit et sent les choses.
Johan,
il vient de briser le silence qui leur tient compagnie depuis le début de la promenade.
Oui ?
C'est quoi ce que tu appelles la méditation en pleine conscience ? Il voit se dessiner un sourire surpris sur son visage, qu'elle fait vite disparaître. Il ajoute un peu confus.
Je me demandais si c'était se concentrer sur plein de petits détails qui nous entourent, ce genre de choses.
Elle hoche la tête.
Oui, il y a de ça. Je dirais que c'est une forme de méditation contemplative.
Il grimace et prend un air menaçant.
N'essaie pas de me perdre avec des mots compliqués, je te préviens.
Mais Johan secoue la tête en souriant.
Ça n'a rien de compliqué. En fait, il s'agit juste de faire un arrêt sur image, de se mettre soi-même sur pause est d'observer l'instant présent, ce qui se passe autour de nous, mais aussi en nous. Notez le moindre détail, c'est vrai, mais également comment ces détails extérieurs se répercutent dans notre intérieur. Tu vois, ce que nous fait ressentir ce son, ce que cette image fait naître en nous.
J'imagine que c'est ton père qui t'y a initié. Elle acquiesce.
Oui, pour lui, c'était même la seule façon de vivre. Apprendre à être là et nulle part ailleurs, en se détachant de nos préoccupations concernant le futur et des regrets du passé. Je t'avoue que c'est compliqué au début. On est tellement habitué à ressasser ou à essayer d'anticiper. On est rarement vraiment présent à soi.
Elle laisse son regard se perdre sur l'étendue de l'étang.
Mais avec le temps, à force de pratique, ça devient plus facile et ça devient un automatisme. On apprend à se mettre sur pause en regardant un paysage, en dégustant un plat, en écoutant une mélodie. On n'y songe plus et on le fait par réflexe.
J'aimerais y arriver un jour. À force de vivre dans le passé, comme tu dis, ou dans l'angoisse du futur, on finit par oublier qu'il y a de la beauté dans tout, ou presque tout. Quand on est enfant, on le fait naturellement, non? On s'émerveille devant un caillou qui a des reflets argentés ou devant une plume. On ramasse des pissenlits et on s'extasie devant leur jaune intense. Après ça, on trouve ça laid, les pissenlits. On les considère comme des mauvaises herbes. Ils sourient tous les deux.
C'est vrai. Quand on est enfant, on sait faire ces choses-là.
Émile fronce les sourcils. Qu'est-ce qui se passe après? On oublie?
Oui, j'imagine qu'après ça, on est trop préoccupé par le fait de se construire un avenir, de réussir socialement, d'amasser un peu d'argent.
Une mouette passe au-dessus d'eux en poussant un cri suraigu.
Tu sais, dit Johan en suivant l'oiseau du regard, ça va revenir. Si tu te forces à regarder autour de toi en pleine conscience, chaque jour un petit moment, ça reviendra.
Tu penses?
Bien sûr.
Je crois que j'ai déjà commencé avec le voyage. Avant, dans ma vie à Roanne, j'étais trop centré sur mes petits problèmes. J'étais trop occupé à ruminer le fait que je m'étais fait larguer, que je m'ennuyais à mourir au travail.
C'est comme une page qui se tourne et une toute nouvelle histoire qui s'écrit.
La seule constance, c'est Johan et lui, ainsi que leur camping-car. Sinon, tout a changé une nouvelle fois. Le paysage, le décor, l'ambiance, les odeurs, la lumière du jour. Plus de montagnes, de pâturages, de vaches ou de moutons. Plus de sentiers caillouteux et de petits lacs d'altitude. Ils sont face aux étangs, à la mer qu'ils aperçoivent au loin quand le ciel est bien dégagé, à l'odeur salée, aux mouettes et aux flamants roses. Les personnages de cette nouvelle histoire sont nouveaux. Sébastien et son chien Lucky. Ils sont venus remplacer Annie, Myrtille et Canaille. Ce premier jour, après avoir visité Périac de Mer avec excitation et hâte, ils se retrouvent attablés à jour de pêche. C'est un restaurant typique du coin, avec ses nappes bleues et ses tableaux représentant des bateaux de pêcheurs accrochés partout au mur. Sébastien est assis en face d'Émile. Son chien Lucky, un labrador crème au poil long, est allongé à ses pieds. Émile a du mal à réaliser que ce garçon a son âge. Il a ce petit côté innocent qui lui donne l'air d'un gamin. Il s'émerveille de tout et parle beaucoup. Il aime son village avec passion. Et Émile le comprend. D'après ce qu'ils ont vu cet après-midi, Périac de Mer est un joli petit village occitan qui a conservé ses carriérettes médiévales et ses calades. Le gros de la vie du village se concentre sur la petite place centrale et sa fontaine. On peut s'y attabler en terrasse, sous les platanes dans lesquelles les mouettes ont élu domicile. C'est bruyant, non pas à cause des humains, mais des volatiles. Tout à l'heure, un peintre était assis au pied de la fontaine et dessinait l'église fortifiée Saint-Paul, qui date du XIVe siècle. Johan s'est arrêté quelques secondes pour l'observer.
« J'ai toujours rêvé d'apprendre à peindre. »
Devant la carte du restaurant, ils ont du mal à se décider. Sébastien tente de les convaincre d'opter pour le civet d'anguille qui fait la renommée du restaurant de son père. Johan annonce timidement qu'elle ne mange pas d'animaux et se rabat sur une salade composée, tandis qu'Émile se contente de choisir une dorade à la plancha.
« Alors, qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ? »
s'enquiert Sébastien à peine la commande passée. Il les écoute compter leur journée, puis il leur parle du petit port de Périac, dans lequel il fait si bon s'asseoir pour regarder les bateaux revenir de la pêche, des nombreuses îles et étangs qu'il aime sillonner à bord de sa petite barque de pêche. Le cadeau de mon père pour mes 18 ans. Il leur parle des vignes qui entourent le village. La région produit des vins d'exception. Ils sont très typés. Vous devriez en goûter. La plupart des caves sont ouvertes aux visiteurs. Il évoque les plages de sable fin et les dunes, mais aussi les forêts. Le village semble être composé d'une multitude de paysages. Johan est absorbé par le récit. Les plats sont arrivés. Elle interroge avec retenue.
Tu as toujours vécu ici ?
Sébastien hoche la tête en découpant une petite tranche d'anguille qu'il donne à Lucky sous la table.
Je suis né ici. Papa est pêcheur depuis toujours. Il y a 15 ans, il a décidé d'ouvrir ce restaurant et il a arrêté la pêche. C'est moi qui ai pris le relais. J'ai arrêté l'école à 16 ans pour pouvoir le remplacer. Il m'a offert une barque, puis Lucky, il y a 2 ans de cela. Il avait peur que je me sente seul toute la journée sur ma barque.
Tu vis chez tes parents ?
Ma mère n'est plus là, elle est partie il y a longtemps. Je me souviens même pas d'elle. Il n'y a que mon père et moi.
Tu es fils unique ?
Ouais, je vis toujours chez papa. Mais quand je serai marié, je prendrai une maison pour moi, et ma future femme, bien sûr. J'aimerais avoir une maison sur le port.
Tu n'as jamais voulu voir du pays ?
Oh si, un jour je le ferai. Je partirai en camping-car avec Lucky. Il faudra que je le fasse avant de me marier.
Johan sourit et le regarde avec tendresse, comme elle le ferait avec un petit garçon. Ils ont une histoire identique tous les deux. Une mère inconnue ou presque. Un père qui tient un rôle de modèle dans leur vie. Une absence de frères et sœurs. Un village qu'ils n'ont jamais quitté. Pour Sébastien, c'est Périac. Pour Johan, c'est Saint-Suliac. Un goût prononcé pour la solitude et le calme, visiblement.
« Tu n'as pas de petite amie ?»
interroge Johan avec amusement.
« Non, il n'y a pas beaucoup de jeunes filles ici. »«
Ah non ?»«
Les enfants des pêcheurs ont tous quitté le village, un à un. Ils ont fait des études pour la plupart. Ils se sont installés à Narbonne ou à Béziers. Périac ne les intéresse pas, c'est trop calme. »«
Moi, ça me va, »
conclut-il en avalant une bouchée d'anguille.
« Demain ou un de ces jours, il faudra que je vous amène en bateau. »
Alors qu'ils mangent tous les trois leur dessert, un crumble aux poires et aux noix, Sébastien les interroge avec envie sur leur voyage. Il lui parle de Pouzac, d'Artigues, du Pic du Midi et de son chemin des Muletiers, de Barèges, du lac de la Glaire, de Luz-Saint-Sauveur, Gèdre, Beaudéan, Mosset, Éous, mais aussi Côme, le village en ruine. Sébastien a la bouche entrouverte et les yeux qui pétillent d'envie. Émile laisse Johan parler. Il se rend compte qu'il a oublié certaines de leurs étapes. Luz-Saint-Sauveur et Gèdre, évidemment, à cause du blackout qui ne s'est jamais éclairci. Mais pas seulement. Il a du mal à se remémorer Beaudéan. Il a oublié Barèges. Quand il essaie de visualiser leurs rues, les montagnes environnantes, tout se mélange. Il les confond avec les sommets visibles depuis Artigues, avec les rues de Mosset. D'ailleurs, il n'est plus sûr que ces ruelles de pavés ne soient pas celles d'Éous plutôt que Mosset. Alors il se tait, car l'angoisse qu'il sent monter en lui est trop forte. Il reste silencieux, glacé d'effroi. Et il n'écoute même plus Johan et Sébastien parler de la montagne, des pâturages, des couchers de soleil.
« Ça va ?»
demande Johan tandis qu'ils rejoignent le camping-car en dehors du village à pied.
« Ouais, pourquoi ?»
Tu as été bien silencieux.
J'ai sommeil, c'est tout.
Ils arrivent tranquillement sur la nationale, puis sur le terre-plein qui leur a permis de stationner le camping-car. Émile note avec amertume que c'est Johan qui en a les clés. Désormais, c'est elle qui conserve les clés et toutes les choses importantes. Il a multiplié les étourderies à Éous, surtout sur la fin de leur séjour. Elle ne lui fait plus confiance. Il sait qu'elle a raison, mais ça ne l'empêche pas de se sentir encore plus démoralisé. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Il garde le petit Poc serré tout contre lui jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'il finisse par sombrer, toujours submergé par l'angoisse. Il a pensé que ça serait facile. Il a pensé que quitter Roanne et ses proches, marcher sans but, changer de lieu, de décor, de paysage, l'aiderait à oublier ce qui l'attendait, ou en tout cas à le rendre plus acceptable. C'est faux. Il n'est pas prêt à laisser aller son passé, à dire adieu à son futur. Pas encore. Il essaie de faire bonne figure devant Joanne, car elle n'a pas à subir tout ça. Elle a son lot de casseroles à traîner, elle aussi. D'ailleurs, un matin, 3 jours après leur arrivée, il lui demande « Léon n'appelle plus ?» Elle est en train de laver la vaisselle et elle garde le dos obstinément tourné pour répondre.
« Mon téléphone est éteint depuis des semaines. »
Puis, sans qu'il ait demandé quoi que ce soit d'autre, elle ajoute
« Je sais pas si je rentrerai un jour. »
Il manque de s'étouffer avec son thé brûlant.
« Comment ça ? Je croyais... »
Il ne parvient pas à terminer sa phrase. Il s'en était douté. Quand il a vu que les appels s'espaçaient, quand ils ont signé les papiers du mariage. Elle ne l'aurait pas fait si elle avait eu la certitude de rentrer un jour. Elle se détourne du plan de travail et lui fait face. Elle a un drôle d'air qu'il ne lui a jamais vu, comme de la mélancolie.
Moi aussi, je pensais rentrer et puis... J'ai recommencé à sourire loin de lui, alors...
Elle ne finit pas sa phrase. Émile essaie de deviner ce qu'elle voulait dire. Alors je n'ai aucune raison de rentrer. Alors je veux continuer à être heureuse.